Et aujourd'hui, dans notre studio, on reçoit le député de la 6e circonscription de Haute-Savoie, M. Xavier Roseraine. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être sur le plateau de Globule ce matin.
Bonjour.
Merci à vous. Alors, c'est votre premier mandat en tant que député. Vous avez été élu en 2017 sous l'étiquette de La République En Marche. Mais vous baignez dans le monde politique depuis plus longtemps que cela, puisque vous avez été maire des Ouches également entre 2014 et 2017. Et vous avez soutenu aussi, je tiens à le rappeler, le projet et le développement de Globule à l'époque. Je n'étais pas encore là, mais on me l'a soufflé à l'oreille. Alors, d'où vous vient, monsieur Xavier Roseraine, cette envie et cette volonté de vous investir politiquement sur et pour ce territoire, vous qui êtes originaire de Chamonix?
Moi, j'ai repris un magasin de sport aux Ouches dans les années 1998. Et de suite, je me suis intéressé à l'office du tourisme. Et pour être à l'office du tourisme, il fallait du coup plutôt être près de la mairie. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu. Et puis, des gens sont venus me voir pour participer en tant qu'adjoint dès les années 2002. Et j'ai été adjoint pendant deux mandats avant d'être maire en 2014. Et c'est vraiment pouvoir participer sur son territoire qui m'a vraiment donné l'envie d'être d'abord élu local et puis après maire de la commune en 2014. Et puis en 2017, du coup, j'ai dû démissionner de la fonction de maire quand j'ai été élu député de la 6e circonscription.
Et comment vos engagements, c'est une question que je pense beaucoup de gens se posent, comment vos engagements pour ce territoire, ils se traduisent concrètement dans votre fonction de député à Paris, à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est compliqué, je ne sais pas, de mettre en avant des problématiques bien locales à l'Assemblée et à Paris?
Alors quand on est né à Chamonix et qu'on est amoureux de son territoire, pouvoir du coup le défendre à Paris, c'est juste très très, je suis très très fier de pouvoir le faire. Et c'est vraiment compliqué parce que vu de Paris, quelquefois, la 6e circonscription, la Haute-Savoie ou même l'ensemble de la montagne française, des fois, c'est pas beaucoup. Et on a des spécificités en montagne et on doit nous expliquer et défendre les intérêts de la montagne et ses spécificités à Paris parce que on peut pas faire une loi qui soit pareille sur l'ensemble du territoire et il faut tenir compte des spécificités. Ici, par exemple, quand vous êtes maire, vous avez des problèmes de ce qu'on appelle de PPR avec les risques de montagne, mais vous avez aussi des problèmes de déneigement. Vous accueillez, quand, par exemple, la vallée de Chamonix, c'est 60 000 quasiment lits touristiques. Et donc, il faut que l'ensemble des infrastructures en électricité, en eau, pour une population de l'ordre de 14 000. Donc, toutes ces choses-là font qu'on a des spécificités montagne et il faut les expliquer. Et on ne vit pas pareil à Lyon, à Grenoble ou dans la vallée de Chamonix.
Et pour aborder une problématique bien locale et pour citer quelques chiffres qu'on a pu relever et qui a été relayé dans le Dauphiné Libéré, par exemple, pour parler de Chamonix, 90% des transactions immobilières à Chamonix concernent les résidences secondaires et en un an, le prix de l'immobilier a augmenté de 14%. Il y a même certains, parfois, chamoniards qui quittent la vallée pour cette raison, parce qu'ils ont du mal à se loger. Et je sais que c'est une problématique aussi sur laquelle vous travaillez beaucoup et qui vous tient à cœur. Comment, en tant que député, on peut lutter sur cette question de la tension immobilière et de cet équilibre, justement, entre résident principal et résident secondaire?
Alors, le logement, surtout ici, c'est très, très important, parce que, vous l'avez dit, dans la vallée de Chamonix, plus de 70% du bâti, c'est de la résidence secondaire. Ça veut dire qu'il reste 30% pour de la résidence principale. Et quand vous avez un bien à vendre ici dans nos vallées, il est souvent tellement cher que quelqu'un qui est local ne peut pas l'acheter. Pour vous donner une idée, si vous prenez le salaire moyen, pour acheter un 70 mètres carrés à Chamonix, il faut quasiment 26 années de salaire, sachant que par exemple, le salaire moyen pour acquérir quelque chose en France, c'est plutôt de l'ordre de 6 années. Donc, vous voyez la proportion. Donc, aujourd'hui, les gens, nos jeunes, ne peuvent pas rester au pays. Quand vous travaillez, vous vous éloignez de votre lieu de travail. Donc, il y a une vraie, vraie problématique parce que, du coup, le logement est trop cher. Donc, il y a plein de choses. Et j'ai fait un colloque avec sur le sujet du logement, est-ce que se loger est-il secondaire ou pas, avec mon collègue de Corse, de Haute-Corse, qui a les mêmes problématiques, parce qu'à chaque fois que vous avez un territoire très touristique, vous avez du coup cette problématique de comment on fait pour du coup réussir à rester au pays. Pour vous donner une idée, Megève, dans les années 80, c'était 5300 habitants. Aujourd'hui, c'est 3000 habitants. Donc la vallée de Chamonix a mieux résisté parce que les élus locaux, depuis des années, essayent de faire le maximum pour garder des gens à l'année. Mais ça doit, on doit avoir de nouveaux outils pour permettre de pouvoir acheter, de pouvoir louer et de pouvoir continuer à vivre dans nos stations et qu'on ne devienne pas des parcs d'attractions.
Et l'un des leviers que vous portez également, c'est sur le droit de succession, c'est ça, pour pouvoir justement l'abaisser, que les Chamoniards, par exemple, quelqu'un qui hérite d'une maison, puisse la garder, et donc ça parte justement à un résident secondaire, c'est ça ?
On a des solutions à court terme et des solutions à plus long terme. Plus long terme, ça serait qu'on arrive en France à faire une différenciation entre la résidence principale et la résidence secondaire. Mais notre constitution et les droits européens aujourd'hui ne nous permettent pas aujourd'hui de faire une différence résidence principale et résidence secondaire. Par exemple, en Suisse, certains cantons limitent à 20% le taux de résidence secondaire et après, vous ne pouvez pas avoir plus de résidence secondaire. Donc ça, c'est le long terme, il faut continuer à travailler dessus. Mais le court terme, ce sont des outils fiscaux qui vont permettre de, par exemple, lorsqu'il y a une succession, de dire si la personne qui va habite à l'année, eh bien on peut imaginer que les droits de succession soient plus faibles. Ça évitera que lorsque vous avez des droits de succession qui sont très forts, eh bien que ça parte de nouveau sur une résidence secondaire plutôt que sur une résidence principale. Mais c'est aussi peut-être la surtaxe d'habitation. Ça veut dire une petite surtaxe qui est non pas non plus démesurée, mais qui permettrait d'avoir des revenus complémentaires à la commune. Et ces revenus complémentaires permettront de faire du logement social. Et la bonne nouvelle qu'on a eue tout récemment, c'est que la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, est venue en Haute-Savoie pour annoncer que sur la Haute-Savoie, le 35 communes allaient bénéficier d'un changement de zonage. C'est-à-dire, c'est avoir un zonage plus intéressant qui va permettre de faire du logement social moins cher, qui va permettre d'avoir des emprunts à taux zéro, mais aussi pouvoir acquérir du logement à des prix modérés à l'année. Donc toutes ces choses-là combinées fonctionnent. Il n'y a pas malheureusement une solution magique, unique, mais c'est toutes ces successions de la fiscalité qui vont permettre du coup de pouvoir rester et de vivre au pays.
L'un des autres points sensibles, on va dire, du territoire et de la vallée en particulier, c'est la pollution de l'air, sujet que vous abordez aussi régulièrement. La semaine dernière, à votre place, il y avait le collectif Colère Pure qui était là pour nous parler de leur relevé, de leur projet, de leur combat. Ils nous indiquaient notamment que les taux de dioxine ou de particules fines étaient assez alarmants dans l'air de la vallée, surtout en hiver. Voilà, tous les hivers, on enchaîne les pics et les alertes pollution dès qu'il fait beau. Et face à cette situation, on a un peu l'impression des fois qu'il ne se passe pas grand-chose justement au niveau politique. Est-ce que c'est un combat que vous portez également à l'Assemblée et en tant que député, ce combat pour la qualité de l'air dans la vallée ?
En fait, il se passe beaucoup de choses. Et ce que j'aime d'abord dire, c'est qu'ici, c'est pas qu'on pollue plus qu'ailleurs, mais à cause de ces inversions de température, l'ensemble des polluants reste au sol. Ça veut dire que si vous avez un anticyclone et que vous n'avez pas de précipitation, et c'est ce qui arrive souvent en hiver, vous avez du coup des taux de pollution qui sont très importants et c'est un vrai, vrai problème sanitaire. Et tout le monde doit s'en occuper. Ça veut dire que le citoyen doit faire ce qu'il faut pour essayer de diminuer le problème de la pollution de l'air, mais les élus locaux, la région, le département, et bien sûr aussi au niveau national. Au niveau national, beaucoup de choses ont avancé sur la qualité de l'air. Et vous avez par exemple en France 14 zones qui ont des PPA, c'est-à-dire des plans de protection de l'atmosphère. Lorsque vous dépassez régulièrement des taux de pollution, vous avez l'obligation de mettre en place un plan de protection de l'atmosphère. Ici, dans la vallée de l'Arve, on est à notre deuxième plan de protection de l'atmosphère, qui sont un ensemble de mesures qui vont permettre de diminuer drastiquement l'ensemble des polluants. Les particules fines, comme vous en avez parlé, mais également toute la partie dioxine qui est plus due au trafic routier ou à l'industrie. Ce PPA, dans la vallée de l'Arve, c'est le seul, et c'est le Conseil d'État qui le disait, en juillet 2020, qui a été qualifié de réaliste, financé, et qui va permettre réellement de diminuer les problèmes de la qualité de l'air. Mais c'est un problème constant, même s'il y a des choses qui ont été faites, il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin. Et avec le fonds Herbois, qui était un fonds qui permettait d'aider les gens à transformer leur système de chauffage non performant en quelque chose de performant, il a été amélioré parce que avant, c'était pour changer que le bois, mais maintenant, si vous avez une énergie renouvelable, vous avez aussi des financements complémentaires. Ça veut dire que si vous voulez mettre, pas aux Ouches, parce qu'il n'y a peut-être pas tout à fait assez de soleil, mais si vous voulez être à Servoz ou sur Passy et mettre du solaire, vous pouvez être aidé, vous n'êtes pas aidé que sur le bois. Et c'est vraiment l'ensemble de ces aides qui vont permettre d'améliorer. Mais la première chose à faire, c'est il faut rénover nos bâtiments et mieux isoler nos bâtiments. Parce que la meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc, il y a un travail très important au niveau national avec ma prime Rénov pour dire je dois faire le maximum pour isoler et pour consommer moins d'énergie. Et puis après, aider financièrement les gens parce que ça coûte cher aujourd'hui de rénover et de changer son système de chauffage. Mais c'est un ensemble de toutes ces choses-là qui vont permettre de réussir.
Et l'une des revendications portées par le collectif Colère Pure, c'est notamment l'alignement de la législation européenne sur les normes de l'OMS en matière de qualité de l'air. Est-ce que c'est une mesure qui serait pertinente et que vous portez, monsieur le député ?
Alors effectivement, le point de vue des normes, c'est très important et j'en profite pour saluer l'ensemble du travail qui est fait par l'ensemble des associations et qui vont aussi, chacun être dans son rôle, de faire avancer pour qu'on aille plus vite sur l'amélioration de la qualité de l'air. Aujourd'hui, on a des normes européennes et des normes françaises sur de contrôle sur la qualité de l'air et effectivement, on a maintenant et Atmo qui s'occupe du contrôle de l'air, on regarde toujours les mesures de l'OMS. Et dans tous les cas, il faut toujours tendre vers des mesures qui soient plus draconiennes, mais en faisant attention de dire que si on baisse les taux, les mesures, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on pollue plus. Donc, je pense qu'il faut se rappeler qu'on va dans le bon sens et qu'on diminue au niveau des particules fines, au niveau des polluants. Mais si on veut progresser, il faut un moment qu'effectivement, on se rapproche de ce que demande du coup l'OMS. Et si l'OMS demande ça, c'est qu'effectivement, ces particules, eh ben, à un certain taux, elles sont dangereuses. Et c'est pour ça que pour aller plus loin, j'ai un collègue qui est Jean-Luc Fugy, qui est député, qui a déposé une proposition de loi pour essayer de protéger encore plus contre du coup, les problèmes de qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc moi, je soutiens cette proposition de loi qui a été signée tout récemment. Mais je pense qu'il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin. Et pour vous faire un scoop pour Globule Radio, en fait, je dépose aujourd'hui une proposition de loi qui va permettre de corriger quelques anomalies. Et j'espère que cette proposition de loi, du coup, sera reprise sur le prochain quinquennat. Par exemple, sur le contrôle. Aujourd'hui, on a l'interdiction, depuis janvier 2022, des foyers ouverts. On a un certain nombre de contraintes liées au PPA, mais malheureusement, on sait très bien qu'en France, si on n'a pas le contrôle, on n'arrivera pas encore à s'améliorer. Donc moi, je propose ce qu'on appelle une police du feu qui donnera des moyens aux maires et aux préfets de mieux contrôler les appareils de chauffage, quels qu'ils soient, vérifier que ces appareils sont aux normes, aider les gens pour les mettre aux normes et après, dans le futur, sanctionner parce que vous avez des gens qui jouent le jeu et puis vous avez encore des gens qui, malheureusement, ont des appareils qui dysfonctionnent, qui polluent. Et aujourd'hui, on n'a pas de moyens pour contraindre ces gens-là à changer le système de chauffage. Donc cette proposition de loi, elle aura 5 articles, elle est assez courte. La première, c'est de dire on donne plus de pouvoir aux maires et aux préfets pour, dans le cadre du PPA, pour contrôler. On demande aussi, on modifie le code des assurances pour que lorsque vous utilisez un foyer ouvert qui est interdit aujourd'hui, et si vous avez un feu de cheminée, vous ne soyez pas couvert. Et je pense que c'est peut-être un peu violent, mais au moins c'est efficace. Et puis, d'autres éléments d'articles dans cette proposition de loi pour améliorer la qualité de l'air.
Et vous parlez de rénovation énergétique et des foyers individuels, mais il y a également d'autres sources de pollution dans la vallée, comme, comme le trafic routier avec tous ces camions qu'on voit défiler tous les jours, ou le domaine industriel, notamment l'incinérateur de Passy, qui est souvent pointé du doigt par ces associations comme Colère Pure, qui réclament plus justement d'analyses scientifiques autour de ces structures industrielles. Est-ce qu'il faut agir aussi concrètement sur ces deux plans? On pense notamment à une solution qui est souvent mise en avant, le ferroutage des camions, c'est-à-dire les mettre sur des trains plutôt que de les laisser monter cette vallée et polluer cette vallée particulièrement encaissée, comme on le sait.
Il faut qu'on aille sur les transports doux, et effectivement, il faut qu'on mette le plus de camions possible sur les trains. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 10-15 ans, on faisait passer plus de camions sur les trains que maintenant. Et pourtant, il y a des budgets, mais les travaux ne se font pas. Et la ligne actuelle, qui est celle de Modane, est quasiment sous-utilisée. Et il faut qu'on arrive à contraindre, et là, ça sera à mon avis par la taxation, il faut qu'on arrive du coup à contraindre et que ça soit coûte un moment moins cher de mettre les camions sur le train. Ce qui est certain, c'est qu'avec le Lyon-Turin, même si c'est à une échéance un peu longue, on aura vraiment la possibilité de traverser du coup les Alpes et mettre un certain nombre de camions sur les trains. Donc moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on continue sur le Lyon-Turin. Mais avant ça, il faut aussi qu'on avance sur la partie train. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la ligne, là c'est pour le transport des personnes, entre le Fayet et La Roche et le Fayet à Annecy, qui va être rénovée. Et je sais que des associations ont fait des remarques sur le projet. C'est 160 millions qui vont permettre d'avoir un train du coup à la demi-heure. Et il faut qu'on réussisse vraiment cette transformation qu'on attend depuis des années et des années. Donc là, il y a l'argent, les travaux sont planifiés. Je crois qu'il faut encore que SNCF Réseau réponde à l'interrogation des associations, parce qu'il y a quelques anomalies qui ont été détectées, il va falloir que SNCF Réseau réponde. Mais ça sera une belle avancée, ces 160 millions d'euros qui seront mis dans le train entre le Fayet et Annecy. Et puis je milite également pour qu'on ait le retour de ces trains de nuit qui se sont arrêtés il y a quelques années dans la vallée. Et quand vous partiez de Paris, vous arriviez le matin du coup à Sallanches ou au Fayet, pour l'ensemble de nos touristes, c'était juste parfait. Donc il faut qu'on remette en place ces trains de nuit. Et il y a un vrai engagement du gouvernement actuel de remettre en route l'ensemble des trains de nuit qui existaient, dont celui du Fayet.
Encore une question concernant la qualité de l'air. La dernière, Emmanuel Macron était aussi venu justement en 2020 dans la vallée. Et c'est un point de détail, mais il avait promis du coup le déplacement de l'aire de régulation du Fayet, l'aire de régulation des camions. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en cours? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes favorable également?
Donc le président de la République est venu et il s'est rendu compte en montant vert du réchauffement climatique, ici plus qu'ailleurs, parce que quand vous faites la Vallée Blanche ou quand vous descendez sur la grotte de la Mer de Glace et que vous voyez en fonction de votre année de naissance quel était le niveau de glace, c'est juste impressionnant. Donc moi je suis très heureux que le président de la République soit venu à Chamonix au Montanvert pour s'en rendre compte, et il était venu pour parler de biodiversité. Il n'a pas annoncé du coup le transfert, le déplacement de la zone du Fayet, mais c'est une vraie bonne raison, et il faut vraiment qu'on arrive à le faire, parce que on fait redémarrer des camions à froid au pied du viaduc, et on a une consommation du coup de gasoil et donc de polluants qui est très 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 importante. Et c'est pas qu'on veut mettre le problème ailleurs, mais c'est que si on le met beaucoup plus loin et sur du plat, on aura un redémarrage plus doucement. Le maire de Passy est très actif sur le sujet, Raphaël Castera, et nous avons tous les deux écrit au ministre des Transports afin de demander avec la TMB d'étudier cette possibilité-là, parce que ça nous semble vraiment de la logique, et moi j'aime bien le bon sens, et ça serait vraiment du bon sens de faire démarrer ces camions un peu plus loin, simplement pour que au démarrage ils n'aient pas une grosse pente.
On l'entendait il y a quelques minutes dans le flash informatif de notre partenaire à 2PRL sur l'explosion du coût de l'énergie en France, qui fait naître une grogne sociale assez légitime, on va dire, compte tenu de cette augmentation du gaz, des carburants, etc. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir en tant que député, proposer des choses, et voilà comment vous vous positionnez par rapport à cela ?
Le coût de l'énergie, sur l'électricité par exemple, le gouvernement a choisi de le limiter à 4%, et s'il n'avait pas limité à 4% en 2022 l'augmentation de l'électricité, l'augmentation prévue c'était 35%. Donc sur l'ensemble des particuliers, le gouvernement a protégé pour que l'augmentation soit que de 4% et pas de 35%. Pour les entreprises et les gros consommateurs, c'est un peu plus compliqué. Il y a effectivement, le gouvernement a demandé à EDF de mettre un certain nombre de kilowattheures pas chers pour que l'augmentation chez les professionnels soit aussi limitée. Mais il y aura quand même une augmentation qui sera un peu plus importante que 4%. Donc oui, c'est important parce que vous ne pouvez pas imaginer que votre facture d'électricité, elle passe de 4% à plus 35%. Surtout quand on va avoir besoin de plus en plus d'électricité avec le moteur thermique qui s'arrête. On sait qu'on a un développement de la voiture électrique, donc on va avoir besoin plus d'électricité, même si entre-temps il va falloir faire des économies de chauffage et de consommation électrique, on va quand même avoir une augmentation. Et donc ces augmentations de là, ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on avance encore plus vite sur le mix énergétique avec du développement des énergies renouvelables. Et l'avantage ici, dans nos montagnes, c'est qu'on a de l'énergie hydraulique et il faut vraiment qu'à terme, en été où on a beaucoup d'eau, on utilise l'ensemble de nos barrages pour stocker de l'énergie, et c'est à mon avis l'hydrogène qui sera la solution à long terme. Mais dans un premier temps, continuons à développer nos énergies renouvelables. Et puis pour 50% de l'énergie dont on a besoin quand même, continuons à développer, comme c'est annoncé par le président de la République, la partie nucléaire pour que nous soyons plus dépendants au niveau énergétique de l'ensemble de l'Europe ou du monde.
Le sujet politique d'actualité en France, c'est évidemment les présidentielles aussi qui arrivent à grands pas. En quoi ces élections, toujours pour avoir une thématique territoriale, en quoi ces élections peuvent avoir concrètement un impact sur notre territoire en Haute-Savoie pour les gens qui se disent justement ben finalement ça va rien changer pour nous. Voilà pourquoi c'est important pour les gens d'ici, du territoire, de la vallée, d'aller voter et de s'impliquer dans ces élections.
Ben parce qu'on est en démocratie et que les gens qui seront élus seront les gens qui décideront. Et alors ça ne plaît pas toujours à tout le monde et je pense qu'il faut qu'on améliore cette démocratie un peu plus participative. Mais pour le faire, on doit passer par les élections. Donc aujourd'hui, on aura plein de candidats pour les élections présidentielles. Forcément, on doit pouvoir trouver le candidat qui plaît, donc il faut aller voter. Ça fait partie de notre démocratie. Moi, je soutiens Emmanuel Macron et je ferai la campagne d'Emmanuel Macron sur les prochaines semaines avant l'élection, parce que je suis certain qu'on a commencé des choses et malgré la crise de Covid, la crise des Gilets jaunes, on a commencé à transformer la France et je pense qu'il faut qu'on aille plus vite. Il faut qu'on aille plus vite sur l'environnement, il faut qu'on aille plus vite sur la transition écologique. On a remis vraiment l'économie, on a remis l'industrie au cœur de l'économie, donc aujourd'hui, l'industrie va plutôt bien, malgré quelques difficultés sur certains secteurs. L'emploi est revenu au même niveau que 2019, donc on a une belle activité. Et je pense que le programme d'Emmanuel Macron, qui, quand il sera candidat, est à la fois social et économique, correspond vraiment bien à la Haute-Savoie. Et il faut qu'on continue ces transformations. Le président on peut faire que deux mandats, donc il aura 5 ans, donc il ne sera pas du coup embêté pour faire les réformes qui sont nécessaires à la France. Et moi, je souhaite vraiment que le président Emmanuel Macron, quand il sera candidat, soit élu président de la République en avril 2022.
On arrive presque au bout de notre interview. Déjà, j'ai une dernière question justement sur vos 5 ans passés en tant que député depuis 2017. Voilà un rapide bilan. Qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce que ça vous a démoralisé ou est-ce que au contraire vous êtes encore plus motivé pour apporter votre contribution et pour porter toujours votre territoire ?
pour les gens qui me connaissent, moi, je suis d'un optimisme, un très, très grand optimisme. Et même si c'est frustrant que les choses n'avancent pas assez vite, il y a quand même des belles choses qui ont été faites. Et je sais que moi, je vais travailler sur l'élection du président de la République, Emmanuel Macron. Mais après, si je peux être utile, j'ai très envie, du coup, de continuer. On va d'abord faire l'élection présidentielle et on verra après. Il y a des choses qu'on a faites. Moi, je sais précisément ce qui reste à faire sur nos montagnes. On en a parlé tout à l'heure sur la partie logement, sur la qualité de l'air. Continuer à accompagner l'industrie avec la baisse des impôts de production, faire en sorte que notre industrie soit du coup concurrentielle par rapport aux autres pays. Et ça, ça va passer par la baisse des charges. Donc il reste beaucoup de choses à faire. On a aussi la réforme des retraites qui est nécessaire, parce que si on veut que nos anciens, les futurs salariés et leur retraite, il faut s'en occuper maintenant. On ne peut pas laisser ça aux autres. Cette réforme a été arrêtée à cause de la Covid, mais ça sera un vrai sujet. Il faudra pas... un sujet vraiment important. Et puis, il y a aussi le sujet de la fin de vie. Moi, je me suis très engagé. Aujourd'hui, le choix de mourir dans la dignité, à mon avis, on doit ramener le sujet pendant les élections. Parce que même s'il y a la loi Leonetti, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien. Et je pense qu'il faut que les députés, les parlementaires, du coup, retravaillent et rediscutent sur la fin de vie. On doit encore améliorer les choses. On ne peut pas aujourd'hui, du coup, ne pas mourir dans la dignité.
Merci beaucoup, Xavier Roseren, d'avoir été sur le plateau de Globule Radio ce matin.